France Culture. Transculture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Voici une émission sur l'art pour laquelle André Parineau avait invité deux artistes prestigieux, Jean Cocteau et André L'Hôte, qui, en 1952, posent des questions qui nous intéressent aujourd'hui avec la même intensité et la même fraîcheur qu'à l'époque. Qu'est-ce qu'un artiste? Quels sont nos critères de jugement et de goût? Comment gagner sa vie? Et surtout, la question éternelle, comment supporter la bêtise?
Veuillez écouter Témoignages et rencontres, une émission d'André Parineau.
Dans cette émission consacrée à l'art, j'aurais pu faire entendre le colloque de nombreux artistes contemporains dont les témoignages auraient sans doute été autant de divergences de vues et de talents. J'ai préféré plus simplement enregistrer les opinions de deux hommes de formation, de talent, d'esprit extrêmement différents, mais qui incarnent tous deux, à des titres divers, les mouvements de l'époque. D'une part, Jean Cocteau, peintre, dessinateur, décorateur, cinéaste, homme de théâtre, qui a sans doute tout essayé et tout réussi, en refusant chaque fois toutes les écoles, tous les systèmes. D'autre part, André L'Hôte, peintre, professeur, chef d'école, qui, partant du cubisme, a traversé et vécu les évolutions les plus importantes de l'art contemporain. Leurs déclarations permettent d'apprécier deux attitudes de la sensibilité d'une époque devant l'art. J'aurais tout d'abord voulu savoir, Jean Cocteau, quelles sont pour vous les formes nouvelles de l'inspiration artistique dans le dernier quart de ce siècle.
Il m'est très difficile de vous répondre parce que j'ai toujours adhéré à des mouvements, mais j'ai toujours évité d'adhérer à des écoles. Pour moi, l'école oblige un jour à s'asseoir. Et je suis un homme qui vit debout. J'espère mourir debout. J'en aurai peut-être pas la chance, mais enfin, j'espère mourir debout. C'est le mouvement que j'aime. Et même quand la jeunesse est dans un mouvement et que ce mouvement m'échappe, on dira qu'il y a là du snobisme. Ce n'est pas du snobisme. C'est un élan du cœur, un élan de l'esprit qui me pousse à participer, non pas à participer, mais à approuver ce mouvement parce que c'est un mouvement.
La situation de l'artiste dans la société lui confère-t-elle aujourd'hui une autorité et une liberté plus grande qu'il y a 25 ans, par exemple?
C'est à deux tranchants, c'est-à-dire que jadis, on mettait très longtemps à rencontrer certaines âmes. Et que grâce au cinématographe, grâce à la radio, grâce à cette conspiration du bruit qui succède à la conspiration du silence, il n'y a plus de contact. Mais aussi, il n'y a plus de brouillamini, il n'y a plus de désordre. Alors on gagne d'un côté, on perd de l'autre. C'est-à-dire que admettons qu'un film comme Orphée passe dans une quantité de salles devant une quantité de monde, eh bien s'il n'y a qu'une ou trois personnes qui ressentent le film dans la salle, c'est déjà beaucoup de monde. Et jadis, un artiste ne pouvait pas espérer avoir tout ce monde. Ils avaient beaucoup moins de chance que nous. Ils avaient beaucoup moins de chance que nous, et la vie était beaucoup plus dure pour les hommes que nous vénérons, comme Baudelaire, comme Nerval, d'ailleurs tout ça, ça finit toujours tragiquement, n'est-ce pas? Tout ça a fini par des fuites dans l'alcool, ou dans le suicide, ou dans la solitude, mais l'artiste a toujours été un drame. Il est encore un drame, mais c'est un autre drame. Peut-être un drame de confusion.
Radio, cinéma, télévision, édition, journalisme, que vous énumérez, sont aujourd'hui de puissants moyens de diffusion artistique, en effet. Mais cet effort de vulgarisation présente-t-il des avantages supérieurs aux inconvénients?
Certainement des inconvénients supérieurs aux avantages. Mais cela n'empêche pas que des solitudes sont très nombreuses. Et ce que j'appelle moi une œuvre d'art, c'est une solitude. Et cette solitude cherche des solitudes. Ces solitudes sont très très nombreuses, éparses dans le monde. La science vient de découvrir une chose étonnante, les abeilles ne se posent que sur des fleurs qui émettent la même longueur d'onde qu'elles. Ben, il est probable que nos œuvres n'atteignent que les personnes qui émettent la même longueur d'onde que nous. Mais peut-être qu'il y a une plus grande diffusion qui permet à ces gens d'être atteints plus vite, mais je crois que cela ne change pas beaucoup. Je crois que c'est comme le chant. Je crois que les 20 personnes qui étaient dans la salle de Baudelaire, qui l'écoutaient, ou les 12 personnes, ou les 2000 personnes que nous avons maintenant dans une salle, c'est comme le chant. C'est comme la pièce de 10 francs est devenue une pièce de 1000 francs. Je crois que c'est une question. Je crois qu'on garde toujours. Il y a un équilibre qui se forme. On a toujours très peu de monde, même quand il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde.
Mais la solitude, ça reste encore le seul grand problème, le seul climat nécessaire à l'artiste. Le bruit
probable.
Du monde ne doit pas le troubler. À votre avis...
Ah, je suis tout à fait contre la tour d'ivoire. Et je suis aussi contre une grande prudence dans la réception des ondes. Il y a... vous savez ce que c'est qu'un poète? Un poète, c'est un homme dont l'inconscient est plus fort que le contrôle. Et il est obligé tout de même de mettre son contrôle en branle lorsque cet inconscient s'exprime. Ce sont là des problèmes très difficiles et impossibles, comme ceux des hindous, n'est-ce pas, s'il y a beaucoup de tohu-bohu. Mais d'autre part, il y a très grande difficulté à faire cela dans la solitude totale. Il faut qu'il y ait des contacts. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à repousser les ondes néfastes et à recevoir les ondes fastes. Il faut s'habituer à toute un triage. Il faut se protéger. Je crois, par exemple, c'est pas très bon de lire une quantité de journaux. Ce n'est pas très bon de... L'actualité n'est pas très... Il y a une actualité qui est plus forte que ce qu'on appelle l'actualité. Que les gens diront peut-être être l'inactualité, mais en somme, l'actualité d'un poète, c'est une inactualité. C'est peut-être l'actualité véritable.
La moyenne de la culture et du goût est-elle plus élevée dans le public qu'il y a seulement 25 ans?
Mais je ne crois pas. Je crois que une chose très nouvelle, la bêtise pense. Jadis, la bêtise ne pensait pas, la bêtise suivait ou se taisait. Tout le monde pense, tout le monde a une opinion. Cela embrouille. C'est depuis les encyclopédistes. Les encyclopédistes s'en sont pleins. C'est ainsi que Diderot disait, tout change dans nos salles, il y a maintenant des marchands de draps, des pâtissiers. C'est leur faute. Ce sont les encyclopédistes qui ont dit à tout le monde de penser. Il y avait tout de même une petite élite qui était une véritable élite à l'époque. À l'heure actuelle, l'élite est immense. C'est en somme le public qu'a trouvé Villard, l'élite. Mais l'élite d'un gala fiche tout par terre. Ce n'est plus une élite. Puisque l'argent a changé de poche et que cette élite dont je parle est une élite d'argent. C'est une élite qui a la poche plus pleine que la tête et que le cœur.
Et un poète doit se méfier de son public pour une certaine part. De ce public.
Oui. Il ne doit pas penser au public. C'est justement ce qui est terrible chez les jeunes. On a dit aux jeunes, il n'y a pas d'avenir. Alors ils se hâtent, et ils veulent des résultats. Mais nous disions cela l'autre jour avec Picasso, jamais nous n'avons pensé à des résultats. Nous ne pensons qu'au fait, j'estime que notre travail, c'est la sueur d'une morale. Je ne dis pas de la morale, mais d'une morale qui nous est propre. Alors nous éliminons cette morale, et voilà, c'est notre seule entreprise. Et après... L'œuvre vit sa vie très contente de s'être débarrassée de nous. Mais on ne peut pas penser au public. Je crois qu'on n'a jamais réussi une œuvre en pensant au public.
On a dit que la culture artistique de tous les peuples et de tous les passés avait fait son entrée dans notre histoire de l'art. Quel est, selon vous, Jean Cocteau, l'apport le plus important enregistré depuis 25 ans?
L'apport étranger.
Et l'apport même antique, enfin, qui nous vient du plus loin du passé.
Je vais vous répondre tout de suite. On a attendu des siècles et des siècles avant de revenir à la triade d'Héraclite. Tout de même, d'Héraclite à Einstein, il y a un trou énorme. Il faut dire que la plupart des savants ou des philosophes dont le nom reste par leur talent d'écrivain, pas parce qu'ils ont dit, un entassement d'erreurs énorme s'amasse depuis des siècles. Et c'est assez étrange de penser que Héraclite rejoint les découvertes de la science actuelle. Pour moi, tout a commencé en 1923 à la séance au Collège de France. Einstein est venu parler de la relativité pour la première fois. Personne n'y comprenait rien dans la salle. Et à la fin, il a dit que voilà la formule qui résume mon système, ma thèse. Et alors là, on a applaudi parce que c'était la fin. Et alors après, il a dit, est-ce que quelqu'un peut me poser une question? Et là, il y a eu une question, une réponse. On n'a pas assez attaché assez d'importance. C'est considérable pour moi, c'est considérable. C'est là que tout a changé. Monsieur Langevin a dit, comment mesurez-vous ces choses? Et Einstein a répondu, ces choses ne se mesurent pas. C'était une réponse très nouvelle en France, où on pense que tout se mesure.
Et vous pourriez appliquer cette réflexion à l'œuvre d'art qui, en effet, elle, ne peut pas se mesurer, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de choses qui ne se mesurent pas. Et on s'est trop habitué à croire. Par exemple, je disais toujours que 2 et 2 ne font pas 4, puisque 2 chaises et 2 pommes ne font pas 4. Il y a les chiffres et puis il y a un esprit des chiffres. Et la vérité des chiffres n'est pas écrite.
Et est-ce qu'il y a alors justement dans l'apport du passé, dans les œuvres d'art qui sont entrées dans notre culture, un certain nombre d'entre elles qui vous ont également bouleversé au même titre que cette réflexion d'Einstein et de Langevin?
Oui, parce que toutes les grandes œuvres sont basées sur des nombres. Mais vous savez ce que c'est que la Grande Pyramide? La Grande Pyramide n'a pas inscrit ces nombres. La Grande Pyramide ne s'explique que par des rapports. Il faut qu'on les devine. Alors la grande élégance du poète, c'est de ne pas écrire ses nombres. Le poète met sa politesse à vouloir qu'on devine des rapports dans son œuvre. C'est comme la section d'or, on dit toujours, c'est le fameux nombre d'or. On dit que des grandes œuvres ont été faites avec le nombre d'or. C'est tout à fait inexact. Le nombre d'or est une preuve. C'est-à-dire que l'artiste qui porte un équilibre en lui, qui ne se trompe jamais, dont l'inconscient est infaillible, et dont le contrôle est très peu de choses à côté de la force de cet inconscient, eh bien, l'artiste fait une œuvre qui peut être contrôlée toujours par le nombre d'or. Mais ce n'est pas avec le nombre d'or qu'il a fait son œuvre.
Vous qui revenez de Grèce, Jean Cocteau, et qui avez vu, cet an dernier, et qui avez encore en esprit les souvenirs précis de ce voyage, et qui avez vu les grandes œuvres d'art de Grèce, ou ce qu'il en reste, et les poussières...
Il n'en reste rien.
C'est ça. Quelle est votre impression?
Bien que la Grèce est une idée, n'est-ce pas? J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire, parce que la fable, c'est quelque chose de faux qui devient vrai, et l'histoire, c'est quelque chose de vrai qui devient faux. Nous constatons tous les jours, enfin, j'ai jamais lu une ligne sur moi exacte. Tous les mots qu'on me prête, je ne les ai jamais dit. Les actes qu'on me prête, les lieux où je vais, où on dit que je suis, je n'y vais pas, tout est inexact. Alors je pense que je suis une paille dans cette grande accumulation d'erreurs. Enfin, surtout, je suis un bon exemple d'une personne dont on a fait une autre. C'est d'ailleurs pour ça que j'habite le Midi, puisqu'il m'est très difficile de cohabiter avec ce double qui ne me ressemble pas. Et puis je n'aimerais pas le connaître, je n'aimerais pas le rencontrer, je n'aimerais pas lui serrer la main.
Y a-t-il aujourd'hui une nouvelle façon de considérer l'œuvre d'art par rapport à la façon qu'avaient les artistes il y a 25 ans?
Là, c'est assez difficile de vous répondre, parce que je crois que ce qui est très nouveau à notre époque, c'est que chacun invente et trouve sa technique. Picasso me disait un jour que le Louvre est plein de croûtes merveilleuses. parce qu'il y avait une telle technique que personne ne faisait une très mauvaise œuvre, un très mauvais tableau. Et à l'heure actuelle, chaque jeune ou chaque personne qui s'exprime s'invente une technique. Il est évident que pour voir les œuvres, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il n'y a plus de code. Il n'y a plus de code. Si vous assistez à un match de football, vous savez très bien quand un joueur a bien joué ou mal joué. Par exemple, au Japon, si l'acteur fait le geste de son arrière-grand-père, on l'applaudit. S'il met son doigt trop à gauche ou trop à droite, on le siffle. Il y a des règles. Tandis que maintenant, dans l'art, on ne peut plus dire qu'il y a des règles. Il faut vraiment qu'il se produise une chose très, très importante. Je m'excuserai de vous dire ça d'une manière convenable. Enfin, c'est quelque chose de sexuel. Si on n'a pas devant une œuvre une érection morale, il n'y a rien.
La recherche de la beauté n'est plus la seule constante de l'artiste. Alors, quelles sont ces valeurs nouvelles de création ?
Je vous ai parlé tout à l'heure de la morale propre à chaque homme. Si un homme se fait une morale, il s'agit de dire sa vérité et pas celle des autres. C'est cette vérité qui a de la force. Mais la vérité n'est pas forcément la beauté. Je dis toujours qu'il faut courir plus vite que la beauté. Je veux dire par là qu'il faut enlaidir la beauté par sa course, n'est-ce pas ? Par la fatigue. Il faut courir plus vite qu'elle. Et en somme, quand les gens disent qu'une chose est laide, par exemple, je prends encore cet exemple de Picasso, que j'ai déjà pris deux fois, les gens sont d'avis que Picasso fait des choses laides, mais sa force est incontestable, et son génie est incontestable. Eh bien, il ne s'agit pas de beauté. La beauté, alors si le canon de la beauté nous amènerait à préférer une carte postale à un tableau de Cézanne, c'est une vérité qu'on cherche. Et il n'y a que cette vérité qui peut procurer, je le répète, cette érection de l'âme.
Alors, quels sont maintenant les domaines et les recherches nouvelles qui vous tentent ?
Eh bien, je ne sais pas, parce que je ne peux pas dire que quelque chose me tente, étant donné qu'un poète est quelqu'un de très modeste, c'est un véhicule. Et on est un peu aux ordres. Quelquefois, on veut faire le Jacques, on veut faire le Mascari, et après, on est corrigé par ce maître. À coup de bâton, j'appelle maître cette ténèbre qui est en nous, cette invisible, cette force qui nous habite, et que nous ne pouvons qu'aider à sortir. Alors nous ne pouvons pas avoir des projets. Il faut que le projet se forme, et alors, avec une grande modestie et une grande obéissance à cette force, il faut que nous tâchions de donner une forme à cet ectoplasme qui coule.
C'est maintenant vous, André Lhote, que je vais citer devant cette tribune pour vous demander quelles sont les formes nouvelles de l'inspiration artistique dans le dernier quart de ce siècle.
En 1900, l'inspiration était inséparable des états d'âme tributaires des couchers de soleil, des clairs de lune, des nymphes et des frissons amoureux. Plus cette espèce d'inspiration était intense, plus le tableau était déclaré bon. Et plus il était en réalité exécrable. Rappelons-nous d'Henri Martin, de Le Sidaner, d'Amangeant, etc., etc. De nos jours, les artistes de valeur sont, bien entendu, aussi inspirés que ceux du XIXe siècle finissant, mais leur émotion ne prend plus naissance dans la sensation directe. Il est très difficile de dire exactement de quoi s'alimente cette émotion créatrice. Oserais-je soutenir qu'il s'agit d'une espèce de rumination transcendantale où s'amalgame de vagues souvenirs de chefs-d'œuvre du passé, des visions personnelles de chefs-d'œuvre sur le point de naître? Ils sont là, dans quelques replis du subconscient, ils vous tendent les bras. Ajoutez-y des spéculations d'ordre plastique sur des thèmes d'actualité, des ricochets de spectacles entrevus, et même des images accidentelles de l'espèce léonardesque, taches sur les vieux murs, affiches déchirées, étoffes traînant sur des chaises, etc. Bref, il s'agit de tout dans ce laboratoire intérieur en ébullition, sauf d'un attendrissement quelconque à propos d'un spectacle immédiat. Émotion technique d'abord. Si jamais la peinture mérita d'être dite « causa mentale » selon le mot du Vinci, c'est bien celle qui se perpètre aujourd'hui et à laquelle je suis fier de collaborer. On voit le ridicule des gens qui en appellent constamment à la nature, au naturel, au lieu de se placer comme André Malraux, qui est un littérateur, cependant, sur le plan spécifiquement plastique.
La situation de l'artiste dans la société lui confère-t-elle une autorité et une liberté plus importantes qu'il y a 50 ans?
De quels artistes parlez-vous? Et de quelle situation? Sauf quelques maîtres privilégiés ou quelques peintres aimables, trop aimables, vous savez que la plupart des artistes, même célèbres, ne vivent que grâce à un second métier. La plupart sont professeurs ou fonctionnaires ou illustrateurs. L'essentiel pour leur triomphe futur, on finit toujours par triompher quand on a du talent, c'est que leur seconde profession, ce qu'on nomme le métier d'appoint, ne leur vaille pas un succès trop important. Celui-ci ferait pâlir leur gloire picturale. Car le public est effroyablement simpliste. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse exceller dans deux genres différents. Voyons, dirait-il à Michel-Ange aujourd'hui. Êtes-vous peintre, sculpteur ou architecte ou poète? Que faites-vous, le séant, entre ces quatre chaises? Le public n'aime pas les cas compliqués. C'est pourquoi il charge les grands marchands de tableaux de le guider dans le labyrinthe des ateliers. Quand Georges Rouault était conservateur de musée, le public n'achetait pas les œuvres magnifiques qu'il exposait, comme nous tous, au Salon d'automne ou au Salon des indépendants. Et l'Amérique l'ignorait. Elle ne le découvrit qu'à partir du moment où le grand marchand Ambroise Vollard lui fit un contrat de l'espèce la plus déplorable d'ailleurs. Aussitôt propulsé sur le marché international, Rouault se mit à grandir jusqu'à atteindre sa taille réelle, telle qu'en lui-même, enfin, les marchands l'ont changé. Ce fut la même chose pour Jacques Villon, peintre inconnu en 1945, sauf de ses camarades, bien entendu, qu'il admirait. Ah, il avait 70 ans à cette époque, et qui ne fut adopté par la foule des amateurs que lorsque New York daigna le découvrir, toujours par le truchement d'un autre grand marchand français. Vous le voyez, cher ami, autorité et liberté sont des faveurs que la providence des peintres ne dispense au génie que lorsque le marché international, dont je vous défends bien de dire du mal, le veut bien.
Radio, cinéma, télévision, édition, journalisme sont aujourd'hui de puissants moyens de diffusion artistique. Mais cet effort de vulgarisation présente-t-il des avantages supérieurs aux inconvénients?
Beaucoup de bruit à propos de tout et de rien. Cela éveille des curiosités, bien sûr. Mais pour une âme inquiète qui attend des révélations de cette presse muette ou parlée, combien d'individus déjà entièrement mécanisés qui tournent la page ou le bouton juste au moment où apparaissent la main dans la main Dufy, Couperin ou Verlaine, Georges Braque, Mozart ou Mallarmé.
À votre avis, la moyenne de la culture et du goût est-elle plus élevée dans le public qu'il y a 50 ans?
Il y a progrès, malgré tout. Mais je trouve que l'on met moins de passion à se battre autour de la peinture dérivée du cubisme que l'on en mettait hier à s'entretuer autour de l'Olympiade Manet.
La culture artistique de tous les peuples et de tous les passés a fait son entrée dans notre histoire de l'art. Quel est, selon vous, l'apport le plus important enregistré depuis 25 ans?
L'art nègre, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Regardez mes murs, ils en sont couverts. Mais attendez un peu, et vous me direz des nouvelles de la peinture pharaonique que tout le monde ignore et dont j'espère bientôt révéler les beautés à ce public moderne, décidément de plus en plus gâté.
Y a-t-il aujourd'hui une nouvelle façon de voir l'œuvre d'art?
Oui, qui coïncide, comme nous venons de le voir, avec une nouvelle façon de placer son argent. Et puis, il y a parfois une façon d'être snob, qui n'est pas si répréhensible que cela.
La recherche de la beauté n'est plus la seule constante de l'artiste. Quelles sont ses valeurs nouvelles de création ?
Dans un de mes premiers articles de la Nouvelle Revue française, j'ai affirmé que la notion d'intensité avait remplacé celle de beauté. C'est devenu un lieu commun. L'artiste vise à une mise au point bouleversante de ses rêveries mi-sensibles, mi-intellectuelles. Les philosophes patentés du vrai, du beau et du bien fuient épouvantés devant les résultats de cette synthèse et s'empêtrent dans leur longue barbe. Il y a encore quelques critiques d'art pour voler à leur secours, avec ingénuité.
Vous avez entendu Témoignages et rencontres, une émission d'André Parineau.
Il est inconcevable que la série d'émissions Les Dormeurs Éveillés puisse prendre fin sans que Jean Cocteau ne s'en mêle. Nous lui avons donc demandé de lire un chapitre du journal d'un inconnu qui cadre exactement avec notre programme et qui est intitulé Naissance d'un poème. Voici Jean Cocteau.
J'ai été le champ d'expérience d'un de ces écartèlements à la Ravaillac tirés par plusieurs chevaux auxquels nous expose la lutte entre les forces dont nous sommes la place de grève. Ayant décidé de mettre à l'étude la naissance d'un de mes poèmes, l'ange Heurtebise, propre, me semblait-il, à dépeindre les rapports de la conscience et de l'inconscience, du visible et de l'invisible, je m'aperçus que je ne pouvais pas écrire. Les mots se desséchaient, se bousculaient, s'enchevêtraient, s'aggloméraient, s'insurgeaient à la manière de cellules malades. Ils affectaient sous ma plume des positions qui les empêchaient de s'emboîter et de faire une phrase. Je m'entêtais, mettant cela sur le compte de cette clairvoyance factice que j'essayais d'opposer à ma nuit. J'en arrivais à croire que je ne serais jamais libre ou que l'âge rouille mon véhicule, ce qui serait pire puisque, libre ou pas libre, je me voyais incapable de prétendre à n'importe quel travail. J'effaçais, je déchirais, je recommençais. Chaque fois se présentait la même impasse. Je butais chaque fois contre le même obstacle. J'allais renoncer. Lorsque je trouvai mon livre « Opium » qui traînait sur une table, je l'ouvris au hasard, si j'ose m'exprimer ainsi, et lus un paragraphe qui me renseigna sur mon impuissance. Ma mémoire se trompait, interpolait des dates, forçait des rouages, gauchissait des mécanismes. Une mémoire plus profonde se révoltait sans que j'y prise garde et s'opposait à mes erreurs. Une mauvaise perspective me situait une circonstance avant une autre, alors qu'elle se situait après. Ainsi, nos actes passés se télescopent avec le recul et leur orchestration devient victime d'une fausse note, d'un faux témoignage porté par celui qui plaide sa propre cause. Avant mon poème « L'ange Heurtebise », le signe « ange » ne présentait déjà dans mon œuvre aucun rapport avec une certaine imagerie religieuse, même lorsque le grec « gréco » la déniaise lui donne un sens insolite et s'attire en Espagne les foudres de l'Inquisition. Ce qui s'en rapproche serait ce que virent les hommes d'équipage de la superforteresse numéro 42753 après avoir lancé la première bombe atomique. Ils parlent d'une lumière pourpre et d'une colonne de nuances indescriptibles. Les vocables leur manquent, le spectacle du phénomène reste enfermé en eux. La similitude entre les mots « ange » et « angle », le mot « ange » devenant le mot « angle » si on y ajoute une « l » ou « l », est un hasard de la langue française, si tant est que le hasard existe en pareille matière. Mais je savais que ce hasard cesse d'en être un en hébreu, où le mot « ange » et le mot « angle » sont synonymes. La chute des anges symbolise dans la Bible la chute des angles, c'est-à-dire la création toute humaine, d'une sphère conventionnelle, vidée de son âme géométrique, faite d'un enchevêtrement d'hypoténuses et d'angles rectangles, la sphère ne repose plus sur les pointes qui assuraient son rayonnement. Je savais aussi que c'est de cette âme géométrique qu'il importe d'éviter en nous la chute et que perdre nos angles ou nos anges est un danger qui menace les individus trop attachés au sol. Il manque dans la Genèse le passage relatif à la chute des anges. Ces fabuleuses et inquiétantes créatures fécondèrent les filles des hommes d'où naquirent les géants. Il en résulte que géants et anges se confondent dans l'imagination juive. Gustave Doré représente à merveille cette avalanche de corps au fond de gorges sauvages qu'ils encombrent de leurs musculatures à la renverse. D'où vint l'idée visible d'ange, la configuration humaine que prirent ces inhumains, sans doute du désir chez l'homme de rendre certaines forces compréhensibles, de vaincre une présence abstraite, de l'incarner pour s'y reconnaître un peu, pour en avoir moins peur. Les phénomènes de la nature, foudre, éclipse, déluge, deviendraient moins funestes s'ils relevaient d'une troupe visible aux ordres de Dieu. Les unités de cette troupe, en ressemblant à l'homme, perdraient de ce vague auquel l'esprit répugne, de cet innommable dont les enfants s'épouvantent dans le noir et qui les jette hors d'haleine jusqu'à une lampe. C'est dans ce sentiment, mais sans l'ombre d'Apocalypse, que naquirent les dieux grecs. Chacun légitimait un vice ou magnifiait une vertu. Il circulait entre terre et ciel, entre l'Olympe et Athènes, comme à travers les étages d'un immeuble. Il rassurait, tandis que les anges durent être une crainte incarnée. Monstres gracieux, cruels, terriblement mâles et androgynes, voilà l'idée que je me formais des anges, des angles qui volent, avant que je n'eusse la preuve que leur invisibilité pouvait prendre figure de poème et se rendre visible sans risque d'être vue. Ma pièce Orphée devait être primitivement une histoire de la Vierge et de Joseph, des ragots qu'ils subirent à cause de l'ange, aide charpentier, de la malveillance de Nazareth en face d'une grossesse inexplicable, de l'obligation ou cette malveillance d'un village mit le couple de prendre la fuite. L'intrigue se prêtait à de telles méprises que j'y renonçais. Je lui substituais le thème orphique où la naissance inexplicable des poèmes remplacerait celle de l'enfant divin. L'ange y devait jouer un rôle sous l'aspect d'un vitrier, mais je ne devais écrire l'acte que beaucoup plus tard à l'hôtel Welcome de Villefranche, lorsque je redevins libre de déguiser l'ange en côte bleue avec ses ailes de vitre dans le dos. Quelques années après, il cessa d'être ange et fut un jeune mort quelconque, chauffeur de la princesse dans mon film. C'est pourquoi les journalistes se trompent et l'appellent un ange. Si j'anticipe, c'est à seule fin de bien faire comprendre que le personnage de l'ange m'habitait platoniquement, ne m'occasionnait aucun malaise avant le poème et que terminé le poème, je l'estimais inoffensif. Je ne conservais que son nom dans la pièce et dans le film. Devenu poème, peu l'intéressait que je m'occupasse ou que je ne m'occupasse pas de lui. Voici le paragraphe d'Opium qui m'ouvrit les yeux sur mon impuissance à écrire ce chapitre. Il date de 1928, je l'ai situé en 1930. Un jour, j'allais voir Picasso rue La Boétie. Je crus, dans l'ascenseur, que je grandissais côte à côte avec je ne sais quoi de terrible et qui serait éternel. Une voix me criait « Mon nom est sur la plaque ». Une secousse me réveilla et je lus sur la plaque de cuivre des manettes « Ascenseur Heurtebise ». Je me rappelle que chez Picasso, nous parlâmes de miracle. Picasso dit que tout était miracle et que c'était un miracle de ne pas fondre dans son bain. À distance, je constate combien m'influença cette phrase. Elle résume le style d'une pièce où les miracles doivent n'en pas être, relever du comique et du tragique, intriguer comme le monde des grandes personnes intrigue les enfants. Je ne pensais plus à l'épisode de l'ascenseur, brusquement tout changea. Mon projet de pièce perdit ses contours, le soir je m'endormais et je me réveillais en sursaut, incapable de retrouver le sommeil. Le jour, je sombrais et trébuchais dans une pâte de songe. Ces troubles devinrent atroces. L'ange m'habitait sans que je m'en doutasse et il fallut ce nom, Heurtebise, qui m'obséda peu à peu pour que j'en prisse conscience. À force d'entendre ce nom, de l'entendre sans l'entendre, d'entendre sa forme, si l'on peut dire, et dans quelques zones où l'homme ne peut se boucher les oreilles, à force d'entendre un silence criant ce nom à tue-tête, à force d'être traqué par ce nom, je me remémorais le cri de l'ascenseur « Mon nom est sur la plaque » et je nommais l'ange qui se révoltait contre ma sottise puisqu'il s'était nommé lui-même et que je ne le nommais pas. En le nommant, j'espérais qu'il me laisserait tranquille, j'étais loin de compte. La fabuleuse créature devint insupportable. Elle m'encombrait, se déployait, se démenait, frappait comme les enfants dans le ventre de leur mère. Je ne pouvais me confier à personne, il me fallait supporter le supplice, car l'ange me tourmentait sans relâche, au point que j'employais l'opium, espérant le calmer par ruse. Mais cette ruse lui déplut, et il me la fit payer cher. Aujourd'hui, sur une côte si douce, j'ai peine à revivre les détails de cette période et ses ignobles symptômes. Nous possédons une faculté d'oublier le mal qui est notre sauvegarde. Seulement, notre mémoire profonde veille. Et c'est pourquoi nous nous souvenons mieux d'un geste de notre enfance que d'un acte que nous venons d'accomplir. J'arrive, en excitant cette double mémoire, à me remettre dans un état inconcevable pour ceux qui n'exercent pas notre sacerdoce. Et sournoisement, moi qui me vantais d'être libre, en pleine désobéissance envers ce sacerdoce, je me retrouve aux ordres et ma plume court. Plus rien ne la paralyse, je loge rue d'Anjou, ma mère est vivante, je déchiffre mes troubles sur son visage, elle ne m'interroge pas, elle souffre, je souffre, et l'ange s'en moque, il se démène diaboliquement. Faites-vous exorciser, me dira-t-on, un diable vous habite? Non, c'est un ange, une créature qui cherche forme, une de ces créatures dont il semble qu'un autre règne leur défende l'accès d'une autre, que la curiosité les y attire et qu'elles emploient n'importe quel moyen d'y prendre pied. L'ange ne se souciait guère de ma révolte. Je n'étais que son véhicule et il me traitait en véhicule. Il préparait sa sortie. Mes crises accélérèrent leur cadence et devinrent une seule crise comparable aux approches de l'enfantement. Mais un enfantement monstrueux qui ne bénéficierait pas de l'instinct maternel et de la confiance qui en résulte. Imaginez une parthénogenèse, un couple formé d'un seul corps et qui accouche. Enfin, après une nuit où je pensais au suicide, l'expulsion eut lieu, rue d'Anjou. Elle dura 7 jours où le sang-gêne du personnage dépassait toutes les bornes, car il me forçait d'écrire à contre-cœur. Ce qui s'échappait de moi, ce qui s'inscrivait sur les feuilles d'une espèce d'album n'avait rien à voir ni avec le gel malarméen, ni avec la foudre d'or rimbaldienne, ni avec l'écriture automatique, ni avec rien que je connusse. Cela se déplaçait comme les pièces d'échecs, s'organisait comme si le rythme alexandrin se cassait et se reconstituait à sa guise. Cela désaxait un temple, en mesurait les colonnes, les arcades, les corniches, les volutes, les architraves, se trompait et recommençait ses calculs. Cela givrait une vitre opaque, entrecroisait des lignes, des triangles rectangles, des hypoténuses, des diamètres. Cela additionnait, multipliait, divisait. Cela profitait de mes souvenirs intimes pour humaniser son algèbre. Cela m'empoignait la nuque, me courbait sur ma feuille. Et il me fallait attendre les haltes et les reprises de l'insupportable envahisseur, me plier au service qu'il exigeait de mon encre, de cette encre par le canal de laquelle il s'écoulait et se faisait poème. Je me soutenais de l'espoir qu'il me débarrasserait de son encombrante personne, qu'il en deviendrait une autre, extérieure à mon organisme. Peu m'importait son but, l'essentiel était une obéissance passive à sa métamorphose. Une aide serait trop dire, car il semblait me mépriser et n'en attendre aucune de moi. Il ne s'agissait plus de dormir ni de vivre. Il s'agissait de sa délivrance et de la mienne, dont il n'avait du reste aucun souci. Le 7e jour, il était 7 heures du soir, l'ange Ortebise devint poème et me délivra. Je demeurai stupide. Je considérais la figure qu'il avait prise. Elle me demeurait lointaine, hautaine, totalement indifférente à ce qui n'était point elle. Un monstre d'égoïsme, un bloc d'invisibilité. Cette invisibilité construite d'angles qui lancent du feu, ce navire pris dans les glaces, cet iceberg entouré d'eau, restera toujours invisible. Ainsi l'a décidé l'ange Ortebise, sa configuration terrestre n'ayant pas le même sens pour lui que pour nous. Il arrive qu'on en disserte ou qu'on en écrive. Il se cache alors sous les exégèses. Il a, comme on dit, plus d'un tour dans son sac. Il voulut pénétrer notre règne, qu'il y reste. Lorsque je le regarde, c'est sans rancune, mais je m'en détourne vite. Son gros œil me gêne, qui me fixe et ne me regarde pas. Il me semble remarquable que ce poème étranger me raconte, étranger sauf à ma substance, et que l'ange me fasse parler de lui comme si je le connaissais de longue date et à la première personne. Ce qui prouve que sans mon véhicule, le personnage était inapte à prendre figure et que, pareil au génie des contes orientaux, il ne pouvait, somme toute, qu'habiter le vase de mon corps. Pour une figure abstraite, la seule manière de devenir concrète en restant invisible, c'est de contracter un mariage avec nous, de se réserver la part la plus grande, de ne nous concéder qu'une dose infinitésimale de visibilité, et toutes celles de réprobation, bien entendu. Délivré, vide, assez faible, je m'installais à Villefranche-sur-Mer. Je venais de me réconcilier avec Stravinsky dans un sleeping où nous voyagions de conserve. Nous lavâmes notre linge, fort sec et tendu, depuis mon livre « Le coq et l'arlequin ». Il me demanda d'écrire le texte d'un oratorio, « Oedipus Rex ». Il s'était latinisé jusqu'à vouloir que l'oratorio fût en langue latine. Le révérend père Danielou me seconda dans cette tâche qui me rappelait le collège. Stravinsky habitait Montboron avec sa femme et ses fils. Je me souviens d'un adorable voyage dans les montagnes. Février, les couvraient d'arbres roses. Stravinsky avait emmené son fils Théodore. Notre chauffeur s'exprimait par oracle, un doigt en l'air. Nous le surnommâmes Tirésias. C'est pendant cette saison que j'écrivis Orphée et que je le lus dans la villa de Montboron en septembre 1925. Stravinsky réorchestrait le Sacre du printemps et composait Oedipus Rex, dont il souhaitait la musique bouclée, disait-il, comme la barbe de Zeus. Je lui apportais les textes au fur et à mesure. J'étais jeune, il y avait le soleil, la pêche, les escadres. Après notre travail, je rentrais à pied, la nuit, sans fatigue, jusqu'à Villefranche. Hurtebise me laissait tranquille, il n'était plus qu'un ange de théâtre. Cependant, je note dans Opium les curieuses coïncidences qui accompagnèrent le spectacle Pitoef en juin 1926. Coïncidences qui s'enchaînaient et devinrent graves au Mexique. Je cite encore Opium. On jouait Orphée en espagnol au Mexique. Un tremblement de terre a interrompu la scène des Bacchantes, démolit le théâtre et blessa quelques personnes. La salle reconstruite, on redonna Orphée. Soudain, un régisseur annonça que le spectacle devait s'interrompre. L'acteur jouant le rôle d'Orphée ne pouvait sortir du miroir. Il était mort en coulisses. La pièce, écrite en 1925, allait être représentée en 1926 à mon retour de vacances. La seconde lecture eut lieu chez Jean Hugo, avenue de Lamballe. Après la lecture, dans le vestibule, j'entends encore Paul Morand, qui enfilait son pardessus, me dire « Tu as ouvert une drôle de porte. Ta drôle de porte n'est pas drôle. Pas drôle du tout. » Le lendemain, je déjeunais chez Picasso, rue La Boétie. Je me retrouvais dans l'ascenseur. Je regardais la plaque de cuivre. Elle portait la marque Otis Piffre. Hurtebise avait disparu.
Jean Cocteau va maintenant lire le célèbre poème qui a motivé le commentaire que vous venez d'entendre. Ce poème, qui est une suite d'allitérations et d'allusions, est resté, même pour son auteur, ce qu'il est convenu d'appeler un poème obscur, l'obscurité venant de la rigueur du rythme et des termes.
L'ange Hurtebise, sur les gradins en moire de son aile, me bat. Me rafraîchit la mémoire, le gredin, seul, immobile, avec moi dans la gâte que brise Anne, ton bas surnaturel. L'ange Hurtebise, d'une brutalité incroyable, saute sur moi de grâce. Ne saute pas si fort, garçon bestial, fleur de haute stature. Je m'en suis alité. En voilà des façons. J'hélas, constate, l'as-tu ? L'ange Hurtebise me pousse. Et vous, roi Jésus, miséricorde, me hissez, m'attirez jusqu'à l'angle de vos genoux pointus, plaisir sans mélange. Pousse, dénoue la corde, je meurs. L'ange Hurtebise et l'ange Ségeste, tués à la guerre, quel nom inouï, jouent le rôle des épouvantails, dont le geste non effraie les cerises du cerisier céleste, sous le ventail de l'Église, habitué au geste oui. Ange Artemise, mon ange gardien, je te garde, je te heurte, je te brise, je te change de gardeur, en garde été, je te défie si tu es un homme. À vous, mon ange de Céruse, ta beauté prise en photographie par une explosion de magnésium. Ange Artemise, en robe d'eau, mon ange aimé, la grâce me fait mal, j'ai mal à Dieu, il me torture. En moi, le démon est tortue, animal jadis mélodieux. Arrive, sors de l'agate, dure fumée, ô vitesse qui tue. Sur tes patins de diamant, raye le miroir des malades. Les murs ont des oreilles, et les miroirs, des yeux d'amant. Ange Artemise, abonde, moelle d'avion en sureau et en toile d'albâtre, c'est l'heure, il faut encore descendre à mon secours, la tête la première, à travers le verre, sans défaut des yeux, le vide, l'île où chante l'âtre, sors ton épée, viens au ralenti, folle étoile, que neige ton corps, ah, si nous avions tes hanches drapées de pierre, méchante bête à bon Dieu. L'ange Artemise, au pied d'animal, bleu de ciel, est venu. Je suis seul, tout nu, sans Ève, sans moustache, sans carte. Les abeilles de Salomon s'écartent, car je mange très mal mon miel de thym amer, mon miel des Andes. En bas, la mer ce matin recopie 100 fois le verbe aimé. Des anges doigts, les indécents, les sales, sur l'herbe traient les pies des grandes vaches géographiques. Ange Artemise, je triomphe. La colère, le chiffre 13, mélange ta rebrousse-poil, tes moires blanches, gonfle tes voiles d'une façon toute neuve. Jamais le son ne me plut. J'appris coûte que coûte les affluents de l'Oise, le nom des branches d'arbres, la brousse du mois de mai. Oiseleur, tu perds ta mie, apprivoise plutôt les statues. Des oiseaux, ce sont les amis. Le marbre est très influent. Ange Artemise, dites l'ave. Un pied sur la tortue, l'autre sur l'aile. C'est jongler avec plumes et boulets de canon. J'eus tort, j'en conviens. Nous nous plûmes après le jeûne. Ange Artemise, la terre, mi-soleil, mi-ombre, à tout d'une panthère de la jungle, non? Eh bien, j'en suis sûr, et vous ordonne de vous taire. Vous avez du sang au bec, mon jeune ami. L'ange Artemise, rue d'Anjou le dimanche, joue au faux pas sur le toit, boite, marelle, à cloche-pied, voltant comme une pie ou merle, ses joues en feu. Attention, dites-moi tu. Artemise, mon bel estropié, on nous épie à droite. Cache tes perles, tes ciseaux. Il ne faut pas qu'on te tue, car en te tuant chaque mois, on me tue moi et pas toi. Ange ou feu, trop tard, ange ou feu. Il tombe fusillé par les soldats de Dieu. La mort de l'ange Artemise fut la mort de l'ange. La mort Artemise fut une mort d'ange. Une mort d'ange Artemise. Un mystère du change. Un as qui manque au jeu. Un crime que le pan prend l'as. Un cep de lune. Un champ de cygnes qui mord. Un autre ange le remplace, dont je ne savais pas le nom hier. En dernière heure, ses gestes. Artemise, ô mon cygne, ouvre ta cachette peu sûre. Une feuille de vigne mise sur l'âme impudique. Je t'achète au nom du Louvre, que l'Amérique le veuille ou non. Artemise, ne t'écarte plus de mon âme, j'accepte. Fais ce que doit beauté, qu'il est laid le bonheur qu'on veut, qu'il est beau le malheur qu'on a. Cheveux d'ange Artemise, lourd sceptre mâle, danger de l'eau, du lait, mal de bonne hangar au regard de cet élégant animal sur la carte qui bouge. Mon tombeau, de l'île aux doigts écartés. Le malheur, gante du sept. Ange Artemise, les papillons battent mollement des mains malgré la nue. Les soupapes et les oreillettes du cœur, fleurs de la horte, anthracite, ouragan des points cardinaux, cordage de la nuit. La lune écoute aux portes. La rose n'a pas d'âge. Elle a ses becs, ses gants, et les journaux la citent avec les acrobates que la nuit et le jour échangent sans amour. Dans la nuit du quai, les anges, Artemise, Elzévir, dimanche, ses gestes, après avoir ont du sexe féminin, il paraîtrait, malgré l'heure, Elvire, lumière diffuse, l'âne, fémine de, une aile, par le manche en fer, sur la bouche, l'atrocité du geste, mené au poste, ils refusèrent de s'expliquer, bien entendu.
Dans la série Dormeurs éveillés, Nous venons de vous présenter Naissance d'un poème et L'ange Heurtebise par Jean Cocteau, production Lise de Harme, réalisation Jean-Wilfried Garret.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 décembre 1952.